Il est 7h33 et voici la revue de presse internationale. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour Chloé, bonjour à tous.
Et l'on commence avec cet accord de paix entre Israël et les Émirats Arabes Unis.
Oui, l'annonce a été faite hier. Les Émirats Arabes Unis et Israël doivent signer d'ici 3 semaines à Washington un accord destiné à normaliser leurs relations. Les Émirats seront donc le 3e pays arabe à suivre ce chemin après l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. En échange, l'État hébreu accepte de suspendre ses projets d'annexion de territoire palestinien. Suspendre, mais pas renoncer complètement, affirme le gouvernement israélien. Le président américain Donald Trump se félicite en tout cas de cet accord historique qui était un objectif pour lui. L'avancée diplomatique est saluée aussi bien par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que par le premier ministre anglais Boris Johnson, que par également l'adversaire à la présidentielle de Donald Trump, à savoir Joe Biden. Mais plus largement, quelles sont les réactions? Alors il y a les enthousiastes, les plus mesurés et ceux qui considèrent qu'il s'agit d'un mauvais accord. C'est très perceptible en lisant la presse internationale. Du côté des enthousiastes, il y a par exemple le New York Post. Ce rapprochement, nous dit le journal conservateur américain, met les deux nations sur la voie d'une normalisation complète des liens. Une première pour l'État juif et une nation arabe du Golfe. Ils signeront des accords sur des questions telles que l'investissement, le tourisme, la technologie ou encore la culture. Pour le New York Post, ce futur traité de paix valide en quelque sorte les orientations prises précédemment par les administrations Trump et Netanyahou. Cette concession clé n'aurait jamais été possible si Trump et Bibi n'avaient pas commencé par s'orienter vers l'annexion de territoire, écrit-il. En d'autres termes, ils ont créé une monnaie d'échange qu'ils ont ensuite abandonné au profit de la paix. Fin de citation. Autre analyse à lire dans le journal anglais The Guardian, si ces deux pays, les Émirats et Israël, se rapprochent aujourd'hui, eh bien c'est en grande partie parce qu'ils ont un adversaire commun. Plus que toute autre chose, peut-on lire, la lutte contre l'Iran est devenue un moyen de communication pour les deux parties. L'adage selon lequel l'ennemi d'un ennemi devient un ami a rarement été plus juste. La détermination de Téhéran à se doter d'une arme nucléaire, entre autres, a fourni un terrain d'entente suffisant aux deux parties pour approfondir considérablement les liens.
Et qui sont ceux qui critiquent cet accord, Ilan Malka?
Alors en Israël, bon, dans l'ensemble, la classe politique salue bien sûr la nouvelle, mais les partis qui sont classés bien à droite, eux, ne sont pas vraiment ravis. Ça, on l'apprend en lisant le Jerusalem Post. Yoaz Hendel, par exemple, qui est le chef du parti Derech Eretz, critique le report des plans d'annexion. « Je félicite l'accord, je n'abandonne pas l'entreprise de colonisation », c'est ce qu'il écrit sur Twitter. Quant à Shai Alon, qui est chef du conseil régional de la colonie de Beit El, eh bien il estime que Benjamin Netanyahou ne s'est pas bien comporté envers les colons avec cet accord de paix. « Nous avons été trompés, nous avons été trahis », dit-il. D'autres critiques sur l'accord proviennent également de l'autorité palestinienne. Elles sont à lire sur le site de la chaîne américaine CNN. Pour le porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, cet accord est une reconnaissance de facto de Jérusalem comme capitale d'Israël. Quant à Mustapha Barghouti, qui est chef du parti Initiative Nationale Palestinienne, il déclare à CNN « Il est vraiment choquant qu'un tel accord ait été conclu alors qu'Israël a déclaré qu'il ne mettrait pas fin à l'annexion, mais simplement qu'il allait la reporter. Il est clair que cela ne devrait pas être appelé l'accord du siècle, mais plutôt la tromperie du siècle. Il déclare aussi ceci, je cite toujours, « Cet accord de normalisation est un effort pour soutenir M. Trump, qui est clairement en train de perdre les élections américaines. Il n'aura pas un grand effet sur le terrain. » Fin de citation.
Et puisque l'on parle des élections américaines, la presse internationale continue d'évoquer Kamala Harris, la colistière de Joe Biden, qui a été nommée mardi.
Oui, et on trouve notamment des articles sur elle dans la presse jamaïcaine, qui, c'est intéressant, fait d'elle une sorte de fierté nationale. Elle est une figure célèbre localement, qui a des attaches avec cette fameuse île de la mer des Caraïbes. C'est ce que rappelle avec satisfaction le journal Jamaica Gleaner. Le père de Madame Harris, Donald Harris, écrit le journal, est un Jamaïcain, un ancien professeur d'économie qui a eu son diplôme de premier cycle en Jamaïque. Bien que le professeur Harris vive aux États-Unis depuis plus d'un demi-siècle, sa relation avec la Jamaïque ne s'est jamais atténuée. Il a par exemple aidé le gouvernement jamaïcain à formuler une stratégie de croissance. Par ailleurs, note le même site, si Kamala Harris n'avait pas été choisie par Joe Biden comme colistière, eh bien, probablement, cela aurait été Susan Rice, dont les grands-parents sont jamaïcains. Le journal, voilà, une sorte de force, de puissance de la diaspora jamaïcaine, une vraie capacité à se rapprocher des centres du pouvoir aux États-Unis et même ailleurs. Quant au site Loop Jamaica, eh bien, il écrit qu'aujourd'hui, de nombreux Jamaïcains affichent leur fierté nationale par le biais de tweets ou de mèmes sur Internet, avec souvent ce hashtag MVP Harris, abréviation de Madame la vice-présidente Harris.
Merci Ilan Malka, votre revue de presse internationale est à retrouver évidemment sur franceculture.fr.